Bienvenue dans le 12e rendez-vous des droits de l'enfant. L'enfant a des droits, une émission de Radio Tiroir, la radio du Théâtre du Tiroir, avec le soutien de l'association suisse des Jamis de Janusz Korczak et le partenariat de l'autre radio.
Ce n'est pas parce qu'on est petit.
Ce n'est pas parce qu'on est petit.
Qu'on a droit à des petits droits.
Qu'on a droit à des petits droits.
Janusz Korczak, dont j'ai fait le portrait dans les 7 premières émissions de cette série « L'enfant a des droits », Janusz Korczak, donc, dès 1912, en créant son orphelinat à Varsovie, Dom Siero, la maison des orphelins, raconte qu'un jour, un enfant, un garçon, lui a dit « Écoute, docteur, nous avons beaucoup d'ennuis parce que nous ne connaissons pas les règles de la vie. » Eh bien, cette phrase « Les règles de la vie » a donné lieu à un livre. Ce livre, il l'a appelé « Les règles de la vie ». Je vous en parlerai à la fin de cette émission, mais pour l'heure, retournons au Maroc. La semaine dernière, nous avons bavardé avec Madame Souad Odibi, qui anime l'association La Bienfaisance El Rire à Essaouira. Aujourd'hui, nous partons à Casablanca, à la rencontre du théâtre nomade. Le théâtre nomade applique à sa manière la Convention internationale des droits de l'enfant.
Je suis un enfant et j'ai des droits.
Je suis un enfant et j'ai des droits.
Je me présente, je me nomme Ogal Hassan, j'ai 43 ans. Voilà, ça fait maintenant depuis 2008 que je travaille au sein de l'association culturelle Théâtre Nomade, une association qui travaille dans l'art de rue, et qui fait des spectacles d'art de rue et tout ça. Et d'un autre côté, on a un pôle qui est social, où on travaille beaucoup avec les quartiers défavorisés ici au Maroc. Donc on fait des résidences culturelles et artistiques dans les quartiers qui n'ont pas d'infrastructure culturelle. On leur ramène la culture jusqu'à chez eux. Et on travaille avec des enfants et des jeunes sur le thème du cirque et du théâtre. Donc on fait des ateliers hebdomadaires gratuits pour la population où on reçoit les enfants, les jeunes. Et beaucoup, beaucoup, on reçoit aussi les papas et les mamans pour qu'on leur explique c'est quoi le droit au loisir et comment est-ce que les loisirs et la culture, elle peut aider leurs enfants à développer leurs capacités et à développer vraiment leur savoir-faire. Et à avoir une parole pour dire, voilà, on existe, même si on fait partie d'un quartier défavorisé, mais on est quand même des citoyens marocains qui ont le droit de parler, qui ont le droit de s'exprimer de la façon qu'on peut.
Merci Hassan. Depuis quand votre association existe-t-elle ?
L'association, il existe depuis 2006. Elle a été créée par M. Hassani Mohamed et sa conjointe Sophie Al-Bukhari.
Le théâtre nomade a choisi de s'installer dans le quartier des Abattoirs, à Casablanca. Est-ce à dire que votre activité principale se situe dans les quartiers ?
On essaye de faire ramener la culture jusqu'à l'intérieur des quartiers, en travaillant bien sûr avec l'État marocain, dans le corps des communes rurales ou semi-rurales.
Peux-tu nous expliquer concrètement comment vous vous y prenez pour accéder jusqu'au public défavorisé des quartiers ?
Et on travaille avec la commune à qui on demande un rendez-vous, on va les voir, on leur demande de me rassembler toutes les associations qui existent sur le quartier, un quartier X ou Y, un quartier où on a décidé. Et voilà, on fait une réunion avec eux, avec les associations, on explique c'est quoi notre projet, pourquoi on vient, pourquoi on veut s'installer sur ce quartier-là. Et c'est avec ces associations-là qu'on essaye de faire une cartographie du quartier pour connaître quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes qui se présentent là-bas et que les jeunes, c'est quoi le genre de problème que les jeunes et les enfants, ils ont sur place.
Pour toutes ces actions, recevez-vous des aides de l'État ?
Pour nous faciliter l'accès à ces quartiers-là, on a décidé en 2008, on a décidé de frapper à la porte de l'initiative nationale pour le développement humain. C'est un programme qui a été lancé par l'État marocain en 2005 et qui travaille beaucoup sur ces quartiers-là. Bon, sur les quartiers défavorisés, c'est pour les développer du côté humain et du côté, du côté culturel et plein d'autres choses. Donc, on est entré en en convention avec ce programme qui est l'INDH, qui nous a ouvert les portes des quartiers défavorisés que eux ils nomment les quartiers cibles. Donc voilà, il y avait des quartiers dans les villes. On était au début sur Salé, sur la ville de Salé, c'est la ville jumelle de Rabat, la ville sœur de Rabat. Il est à quelques kilomètres de Rabat. Donc c'est eux qui nous ont ouvert les quartiers les portes de ces quartiers défavorisés. On a travaillé sur des résidences d'une année. Et la spécialité que nous on fait pour que les parents ils acceptent que leurs enfants soient avec nous, c'est qu'au tout début de la résidence, on travaille avec les mamans. Parce que ici au Maroc, comme vous le savez, c'est la maman qui dirige un peu la maison, c'est la maman qui reste à la maison, c'est elle qui élève les enfants et tout. Le papa, il est dans son travail et tout ça. Donc on invite les mamans à venir sur notre chapiteau, on leur parle pour expliquer ce qu'on fait, pour montrer ce qu'on a fait sur d'autres résidences et tout ça. Et c'est là qu'on leur demande, c'est quoi votre identité? L'identité du quartier, comment est-ce que vous voyez votre quartier et comment sur quoi vous voulez qu'on travaille pour mettre en valeur votre quartier. Donc on n'arrive pas autant qu'une structure étrangère, autant que personne étrangère au quartier pour un peu les obliger à travailler sur un thème. Mais c'est eux qui choisissent le thème pour avoir cette identité-là du travail. Et c'est à partir de ça qu'on travaille sur le thème que les parents ils ont choisi avec les enfants, bien sûr.
Est-ce que tu aurais un exemple concret à partager avec nos auditeurs?
Je vous dis un exemple. En 2009, on était sur un quartier qui s'appelle Mazza Salé. Et ce quartier-là, il était juste à côté. C'est un quartier défavorisé. Et il était juste à côté de l'aviation, de l'aéroport de Rabat Salé. Et sur cet aéroport, voilà, sur ce quartier-là, il y avait un grand arbre qui abritait plus de 20 nids de cigognes. Et c'était un peu la fierté de ce quartier-là. Tous les enfants, les parents, ils faisaient leur pique-nique, ils allaient visiter cet arbre et tout. Un matin, il y a l'armée qui arrive et qui coupe l'arbre, quoi. Qui coupe sans prévenir, elle coupe l'arbre. Et voilà, donc il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de nids de cigognes et tout ça. Et les gens du quartier, ils étaient furieux contre ça. Et les enfants, ils étaient furieux. Ils ont dit non, mais pourquoi c'était notre arbre? Pourquoi vous nous avez coupé ça? Donc sur ça, on a travaillé avec les enfants sur le thème de cet arbre et de la cigogne. Et on a sorti avec eux à la fin de la résidence, on a sorti avec eux un spectacle qu'on a appelé Cigogne. Et c'est les enfants du quartier qui ont joué devant les officiels de la ville de Salé. Donc c'était une parade qu'on a fait dans la rue. Et tous les enfants, ils étaient habillés avec des échasses et avec des ailes de cigogne et avec un costume de cigogne pour leur passer le message de voilà pourquoi est-ce que vous avez détruit notre symbole. Tu vois? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaille toujours avec les enfants, on travaille avec eux avec notre savoir-faire, mais avec des thèmes qui les présentent, qui les représentent eux. C'est eux qui choisissent les thèmes et les matières sur quoi ils veulent travailler, pour garder cette identité et aussi pour faciliter la passation de l'information à ces enfants. Parce que, voilà, comme tu le sais sans doute maintenant, les enfants, c'est une autre génération, donc les messages oraux, les trop parler, 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 les enfants, ils écoutent et ils oublient. Est-ce qu'ils travaillent avec eux, avec quelque chose de manuel que eux ils font, ou quelque chose de corporel, d'artistique, ils gardent ça dans la tête.
Je suis un enfant et j'ai des droits.
Je suis un enfant et j'ai des droits.
Dans cet exemple que tu viens de donner, tu as travaillé en réalité sur deux droits. Le droit au développement
Exactement.
humain
et
et
le
le
droit à
deuxième
l'expression aussi.
À
C'est le
l'expression.
droit à l'expression. Exactement.
Et je pensais à un troisième droit qui est le droit à
Oui.
l'identité. J'entends beaucoup dans ce que tu dis, ce sont des citoyens marocains. Vous travaillez sur cette
Oui,
question de la
c'est d'ici.
citoyenneté?
On travaille sur la question de la citoyenneté, je te dis pourquoi. Parce que au Maroc, ici, les quartiers défavorisés, c'est toujours des quartiers qui naissent comme des champignons, qui poussent comme des champignons. C'est des gens qui viennent de plusieurs, je dirais, des campagnes, de plusieurs parties du Maroc pour venir s'installer dans une ville, mais pas dans la ville elle-même, mais c'est toujours dans les alentours de la ville où ils construisent des bidonvilles ou des maisons qui sont. Ben, à 90%, ils ne sont pas légaux. Donc, c'est des quartiers qui poussent comme ça. Et sur ces quartiers-là, il y a plusieurs ethnies. Il y a plusieurs parties du Maroc. Il y a plusieurs. C'est pas tous. Ils viennent pas tous de la même partie du Maroc, mais c'est plusieurs ethnies. Donc, si on veut travailler sur l'ethnie ou sur l'identité de la personne, on aura vraiment un problème parce qu'on va créer des guerres de gang, tu vois, à
Ah
l'intérieur
oui.
du quartier. Donc, on préfère travailler sur l'identité du quartier lui-même
Ah.
que travailler sur l'identité de l'enfant ou du jeune pour ne pas créer la polémie entre eux, mais travailler sur l'identité du quartier
Ah.
duquel ils font partie de ce quartier-là pour leur dire que même si tu viens du nord, du sud ou je sais pas quoi, à la fin, tu te retrouves dans un quartier où vos parents ou bien les premières générations, ils ont créé ce quartier-là, ils lui ont donné une identité que toi aussi tu as acquise. Donc on travaille sur cette identité-là pour ne pas séparer
D'accord.
les enfants du quartier.
J'ai le droit à un nom et une nationalité.
J'ai le droit à un nom et une nationalité.
Moi, je fais partie de moi, je viens du sud, moi, je suis berbère. Tu
Berbère.
vois, donc je garde mon identité berbère ou amazigh, comme ils préfèrent les appeler maintenant, c'est amazigh maintenant. Le
Oui.
nouveau nom, c'est des amazigh. Voilà. Donc moi, j'ai cette identité-là, mais je travaille jamais avec cette identité. Moi, je la garde pour moi, c'est mon identité, c'est mon moi. Mais lorsque je travaille avec les jeunes ou lorsque je parle au nom de l'association ou lorsque je parle au nom d'un projet, je parle au nom du citoyen marocain. Et je parle de ça, je parle aussi de ce problème-là de berbère arabe. Et je parle de arabe arabe, mais qui vient vraiment parce qu'il y a toujours des problèmes entre les gens qui viennent du nord. Quand même, on a encore cette séparation-là, on a encore ce problème-là, que les gens qui viennent du nord, ils considèrent les gens qui viennent de l'est ou de l'ouest comme des compagnons, comme des gens qui sont moins civilisés que eux.
J'ai le droit à la protection de mon identité.
J'ai le droit à la protection de mon identité.
L'identité de chacun de nous, c'est aussi la musique de son terroir, de son territoire. Nous venons d'entendre Moroko Gnawa, la musique traditionnelle Gnawi. Et nous retrouvons Hassan du Théâtre Nomade installé à Casablanca. Dans votre travail sur les droits de l'enfant, j'imagine que vous abordez la question de l'égalité entre les garçons et les filles.
Donc chez nous, on n'a pas de masculin et de féminin, on travaille avec la personne. mais pas avec Fatima ou Mohamed. Tu vois, donc lorsque les jeunes ou les enfants rentrent chez nous sur notre chapiteau, ils sont tous égaux. On n'a pas la séparation entre filles et garçons. Tu vois,
D'accord.
comme on fait des activités de cirque beaucoup et de théâtre et tout ça, on essaye toujours de faire la même chose pour tous. Parfois, on a des gens, des enfants, des garçons qui nous disent, ouais, mais faire du cirque, c'est pour les filles. Danser, c'est pour les filles. On dit, ok, danser, c'est pour les filles. On laisse un jour, 2 jours, 3 jours, et on commence à voir sa réaction des autres qui font de la danse. Et on commence à leur montrer des vidéos, à leur donner des exemples, à leur montrer d'autres spectacles et tout ça pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas des choses ou qu'il n'y a pas des activités qui peuvent être spécialement pour les garçons ou spécialement pour les filles. Et aussi pour casser ce problème et ce tabou-là du mélange entre les garçons et les filles dans le même lieu. Pour ne pas garder cette idée-là que voilà que le masculin ou le garçon il est beaucoup plus important que la fille ou tout ça, mais qu'ils sont pareils, qu'on est pareil garçon-fille. Donc ce problème-là, on le rencontre beaucoup. On le rencontre beaucoup sur nos résidences, mais on arrive toujours à le régler, on arrive toujours à ce que le groupe soit homogène. Et pas de problème. On n'a jamais rencontré de ce genre de problème parce qu'on le prévoyait déjà avant le début.
Est-ce que les parents, de par leur tradition familiale ou religieuse, pourraient être un frein à cette rencontre entre garçons et filles?
Parfois, oui. Parfois, il y a des parents. On a rencontré des problèmes de parents, de papas, qui ont refusé que leur fille se mélange à des garçons. Ou que leur fille accède complètement à notre chapiteau ou à notre lieu et qui les obligeait un peu. Je donne un exemple. En 2009, il y a un papa qui est venu pour sortir sa fille de l'intérieur de notre chapiteau devant tout le monde. Donc elle était un peu humiliée et tout ça, alors que la fille elle avait 15 ans quand même. Et parce que le papa c'était un barbu, c'était d'une religion. La religion islamique, quoi, comme on est tous de la religion islamique, mais la religion, ça n'a rien à voir en fait avec notre travail. Notre travail à nous, c'est pas la religion, c'est pas la politique. Notre travail à nous, c'est un travail avec les enfants. Donc, on n'a pas de message religieux, on n'a pas de message politique, mais on a un message culturel et pour développer le sens chez l'enfant. Donc, on n'est pas là pour donner des messages. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a laissé un peu refroidir l'affaire. On est allé voir le papa. On lui a bien expliqué. On est parti avec des gens qui sont respectés sur le quartier, qui est le directeur d'un collège qui était là sur place et tout, où la fille faisait ses études. Donc, on lui aura expliqué que ce qu'on fait, c'est pas religieux, c'est pas contre la religion, c'est rien, c'est un message culturel. Et c'est après qu'il a laissé sa fille sortir avec nous pour le spectacle. Et après, il y a sa sœur qui a rejoint encore l'équipe. Donc il faut seulement leur parler doucement, bien expliquer les choses, expliquer qu'on n'est pas là avec des messages religieux ni politiques, on est là pour les enfants.
Une autre grande question se pose souvent, l'exploitation des enfants par le travail. Êtes-vous confronté avec le théâtre nomade à cette question?
On est contre le travail des enfants au Maroc. Mais malheureusement, on a toujours cet effet-là au Maroc. On trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui travaillent, ils commencent à travailler à partir de l'âge de 8 ans. Voilà, on trouve des enfants qui travaillent à l'âge de 8 ans. Mais le problème, ça vient de quoi? Le problème, ça vient que au Maroc, on a toujours des familles qui sont vraiment très pauvres. Donc, ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants aux écoles et tout ça. Donc, ils préfèrent les pousser pour le travail, sur le marché du travail. Comme ça, ils gagnent un peu d'argent pour aider leur famille. Tu vois? Et on a aussi, voilà, donc les enfants, ils travaillent toujours au Maroc. C'est contre la loi, mais on a toujours ce problème-là ici au Maroc.
Et quel genre de travail font-ils?
Ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire tout. Tu peux les trouver chez les couturiers, comme tu peux le trouver chez les mécaniciens, tu peux les trouver chez les menuisiers, tu peux le trouver à faire que à ramener des choses, à lui demander de ramener des choses de l'épicerie, de tout. Et ils font tout ce que tu peux imaginer. Et on a un très grand problème aussi, c'est qu'on a toujours c'est des gens qui font travailler les enfants pour faire la manche, pour faire la mendicité dans la.
J'ai droit à la protection.
J'ai droit à la protection.
Contre l'exploitation.
Il y a des parents qui font sortir leurs enfants, il y a des gens qui louent des enfants, il y a tout ça. Mais heureusement maintenant, ça commence vraiment à partir, ça commence un peu à disparaître, mais on en voit toujours. C'est beaucoup dans les grandes villes. C'est des familles qui viennent des campagnes pour une meilleure vie et tout ça, mais là, ils se retrouvent confrontés aux problèmes et à la réalité des grandes villes.
Devant cette situation, on imagine qu'il y a un contrôle de l'État.
Il y a un contrôle étatique, il y a des facilités que l'État a fait. Ils sont allés jusqu'à créer des classes qui sont de l'éducation non formelle, où les enfants et les jeunes peuvent reprendre leurs études. Tu vois, même s'il a quitté l'école, même s'il n'a jamais été à l'école et tout ça, un enfant, un jeune, il a le droit de reprendre l'école dans les cours c'est des cours non formels. Donc l'État, il a créé des cours, il a créé des classes dans les écoles et les collèges. Et il a mis à disposition des éducateurs, qu'il a mis à disposition dans ces classes-là, pour des jeunes qui n'ont jamais fait l'école, qui veulent reprendre, qui veulent commencer l'école. Donc voilà, l'État, il est vraiment en train de préparer le terrain, non, ça fait des années qu'il était en train de préparer le terrain, je crois que ça a commencé depuis 2008.
2008, je crois que c'est le début du programme INDH. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme de l'État?
L'INDH, c'est l'Initiative Nationale pour le Développement Humain. C'est un programme qui a été créé par le Romantis, par l'État marocain, pour développer les quartiers défavorisés, pour développer les quartiers pauvres, pour que les jeunes et les enfants reprennent leurs écoles.
J'imagine que pour le théâtre nomade, ce public des enfants déscolarisés ou dans l'école informelle sont un public de choix.
C'est avec eux qu'on travaille beaucoup. Alors, chez nous, au Théâtre Nomade, on n'a pas vraiment de discrimination, on n'a pas de choix. Donc, on travaille avec tout le monde. Et on travaille avec tout le monde, en fait. On travaille avec des enfants qui n'ont jamais été à l'école. On travaille avec des enfants à risque, des enfants qui risquent d'être des enfants de la rue, même si on n'aime pas trop utiliser ce mot chez nous. Donc, c'est des enfants à risque. On travaille avec des enfants qui sont scolarisés. On travaille avec des enfants qui viennent de quartiers défavorisés, de quartiers pauvres, comme on travaille avec des jeunes qui viennent de quartiers riches, qui ont les moyens et qui font des missions françaises, des écoles françaises qui ont vraiment les moyens de se payer ces études-là. Voilà, donc nous, on travaille avec toutes les tranches sociales. Parce que c'est un peu le but de ce qu'on fait. Comme tu as dit au début, on travaille aussi, à part les ateliers qu'on fait pour la population, on fait aussi des sorties et des ateliers pour les écoles. Et les écoles, on travaille beaucoup avec les écoles et avec les écoles françaises, tu vois, avec les missions françaises. Donc pourquoi on choisit de travailler avec les missions françaises? C'est pour faire une sorte de parrainage. Comme on fait des ateliers gratuits pour la population, les sorties pour les gens des missions françaises, c'est des ateliers qui sont payés, mais qui sont payés vraiment avec un prix symbolique, tu vois. Donc on prend l'argent qu'on gagne des écoles, d'accord, on les reçoit chez nous pour des résidences d'une semaine ou de 2 jours, d'une demi-journée, ça dépend de leur demande. On les fait, mais on leur demande toujours que pendant qu'ils sont avec nous pour leurs ateliers, on va recevoir 2 ou 3 personnes, dire jusqu'à 4 personnes, des jeunes des quartiers qui sont avec nous sur les ateliers gratuits. Tu vois, comme ça, on fait rencontrer les deux pôles sociaux, les riches et les pauvres, et on explique aussi aux riches que ce qu'ils donnent pour les ateliers, c'est une sorte de parrainage pour aider les autres à avoir un peu de ce qu'ils ont, à avoir le droit à l'accès à la culture et tout ça. Comme ça, on crée ce lien entre les deux mondes. Donc le pauvre, il est épanoui, Tu vois? Et le RIF, qui a les moyens, il se sent vraiment qu'il a fait quelque chose de utile pour un enfant, qu'il a découvert un autre ami, qu'il a découvert un autre monde que peut-être il connaissait pas. Hein. Donc, on fait toujours ce genre de rencontre entre les deux pôles pour créer une mixité sociale, en fait, et pour sortir un peu de la séparation sociale.
Est-ce que parmi les publics que vous touchez, vous allez vers ces enfants sortis de la société qu'on appelle ici délinquants?
Chez nous, les enfants délinquants, en fait, directement, non. Directement, on ne travaille pas avec eux. Tu vois, parce que c'est un peu difficile de travailler avec eux. Comme ils sont toujours dans des centres ou dans des lieux qui sont spécialisés pour ces jeunes-là, c'est un peu difficile d'y accéder. Tu vois, et c'est un peu difficile de faire sortir les enfants pour bénéficier de nos ateliers. Par contre, de parmi nos formateurs à nous, les formateurs que nous avec qui on travaille, on a des jeunes qui étaient délinquants avant.
Tu nous dis que les formateurs sont issus de ces quartiers, mais comment les choisissez-vous?
Dès qu'on est sur une résidence dans un quartier, d'accord, on choisit deux personnes, un garçon et une fille, du quartier même avec qui pour qui on donne une formation d'une semaine, de 2 semaines, de 1 mois avant le début de la résidence. D'accord? Ces deux personnes-là, c'est eux qui nous aident à inviter et à trouver les personnes avec qui on travaille, que ce soit les mamans, que ce soit les enfants et les jeunes. Parce que on appelle la technique du grand frère. Voilà, parce que c'est des jeunes qui connaissent le quartier, qui connaissent les problématiques, et c'est eux qui travaillent avec nous. Et pendant la résidence et pendant le travail avec ces jeunes, avec les enfants, c'est ces deux jeunes-là qui chapeautent un peu le suivi avec moi, comme je suis le coordinateur général. Et c'est là qu'on commence un peu à observer les jeunes avec qui on travaille. Et c'est de là qu'on commence à choisir les enfants qui sont intéressés par ce qu'on fait et ou qui sont attirés ou qui ont du potentiel. Il faut qu'ils aient l'âge pour travailler avec nous. Sinon, même s'ils sont jeunes, on continue à les former chez nous en tant qu'apprentis formateurs. Et à un certain moment, c'est eux qui se transforment en formateurs chez nous. Bien sûr, on les paye avec un salaire et on les déclare à la sécurité sociale. Donc, sur chaque résidence, on choisit un à deux formateurs qui continuent avec nous sur l'autre quartier où on se met, où on travaille. Comme ça, on a vraiment une équipe de formateurs qui viennent des quartiers, qui suivent une formation chez nous et dans d'autres structures, dans le CIR. C'est eux qui continuent l'aventure avec nous. On les forme aux techniques artistiques et aussi on les forme à la pédagogie d'apprentissage ou de la transmission. Parce que le plus important, c'est important d'avoir les techniques artistiques, mais c'est important d'avoir les techniques de la transmission. Parce que si je te donne l'outil de travail et je ne te donne pas la façon de l'utiliser, c'est pas la peine. Donc c'est eux qui continuent. Ils créent aussi une association, c'est eux qui continuent le travail après. Et comme ça, on est sûr que notre travail, ce n'est pas qu'une visite du quartier en bar, mais il y a une continuité du travail après.
Merci Hassan, merci pour ton témoignage. Merci au Théâtre Nomade de mener ce combat pour les droits de l'enfant à travers le cirque et les activités sociales et culturelles. À très bientôt. Longue vie au Théâtre Nomade. On peut le dire avec certitude, le Théâtre Nomade, avec ses activités sociales et culturelles, est dans la ligne droite des préconisations de Janusz Korczak, qui, dès 1929, publiait son livre « Les règles de la vie ». Je vous invite donc à découvrir aux éditions Faber « Les règles de la vie » de Janusz Korczak. Ce livre a été inspiré par ce garçon de son orphelinat qui lui a dit « Docteur, nous avons beaucoup d'ennuis parce que nous ne connaissons pas les règles de la vie. Parfois, les adultes nous expliquent calmement, mais souvent ils se fâchent. Et c'est désagréable quand ils se fâchent, les adultes. Et puis, comprendre pour nous, les enfants, c'est difficile. On ne peut demander à personne. Alors, toutes sortes de pensées contraires se bousculent dans la tête. » Janusz Korczak a alors écrit sur sa feuille de papier « Les règles de la vie ». Ce garçon a dit vrai, écrit-il, c'est bien comme ça. J'ai composé mon plan. Dans mon livre, je parlerai de la maison, des parents, des frères, des sœurs, des jeux et des peines à la maison. Ensuite de la rue, ensuite de l'école. Ensuite, des garçons qui réfléchissent à ce qu'ils voient à la maison, ce qu'ils voient dans la rue et à l'école. Car tous ne se contentent pas de jouer. Ils observent, ils écoutent ce que disent les autres et cherchent à se faire leur idée. Non, non, ce n'est pas un roman, ni un livre d'école que je veux écrire. C'est un livre scientifique. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui préfèrent les livres d'aventure, les contes de fées, les histoires horribles ou tristes ou amusantes. Mais il y a des gens qui disent que les livres les plus intéressants, ce sont justement les livres scientifiques. Dans les livres d'école, on apprend. Un roman, bon, ça se lit vite. Quand on lit un livre scientifique, on réfléchit beaucoup par soi-même. On lit un peu et puis on se souvient de toutes sortes de choses, parfois on s'étonne et on se demande si c'est vraiment comme ça ou pas. Car il arrive que l'un dise une chose et l'autre autre chose. Les jeunes ont leurs propres préoccupations, de toutes sortes, leurs propres soucis, leurs propres larmes et sourires, leurs propres jeunes points de vue, leurs propres jeunes poésies. Souvent, ils se cachent aux adultes, parce qu'ils se sentent gênés, qu'ils n'ont pas confiance. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ils aiment écouter quand les adultes parlent entre eux et ils voudraient tellement savoir. Eh oui, ils aimeraient connaître les règles de la vie. C'est ainsi que Janusz Korczak commence son livre de 1929. Pour l'heure, c'est la fin de l'émission. Je vous dis, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, l'enfant a des droits.